Je vous invite aujourd'hui à examiner avec moi quelques textes bien connus, qui me remplissent toujours d'émotion. Ces passages qui nous parlent des apparitions du Christ ressuscité à ses disciples. Car en lisant ces récits, nous assistons à la naissance de la foi au ressuscité. Ce qui m'impressionne surtout, c'est la manière dont Jésus procède pour faire naître et établir cette foi. Nous venons d'étudier cette question avec notre assemblée à Lille. J'en suis encore tout imprégné, c'est pourquoi il m'est agréable d'en parler avec vous aujourd'hui. Mais avant d'aborder ces textes sur les apparitions du Christ, revenons un peu en arrière. Souvenez-vous de cette prière conservée par l'évangile de Jean, où Jésus prie pour les siens. « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Puis il ajoute quelque chose qui nous concerne. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Ses disciples, qu'il s'est choisis, auront donc la mission de convaincre le monde, de nous convaincre. C'est par leur parole que le monde croira en Christ, par leur témoignage. Hélas, à les voir lorsque leur maître meurt sur la croix, il semble que tous ses projets se sont écroulés. Ils sont désemparés, ils se dispersent comme des brebis sans berger que poursuivent les loups. Il faut le noter, cette attitude des disciples devant les événements terribles qui viennent de les frapper en la personne de leur maître, cette réaction de peur, de panique et de fuite est tout à fait logique. C'est un comportement normal, d'hommes normaux. Les évangiles nous le rapportent fidèlement. Ils craignent des représailles et sont prêts sans doute pour la plupart à jurer comme Pierre, à la moindre inquisition, qu'ils ne connaissent pas cet homme et qu'ils n'ont jamais été ses disciples. En voici deux sur la route qui mène de Jérusalem à Emmaüs. Luc, dans l'évangile qui porte son nom et qui déclare avoir fait sur toutes ces choses des recherches exactes depuis leur origine, nous laisse entrevoir leur silhouette triste et déçue. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. C'est la fin tragique d'un beau rêve. L'homme à qui ils s'adressent vient de se joindre à eux sur la route. C'est plus tard seulement qu'ils reconnaîtront en lui celui qu'ils étaient en train de pleurer. Mais déjà, il n'est plus là. Alors, à cette même heure, ils refont en sens inverse les 11 kilomètres qu'ils viennent de parcourir, malgré la nuit qui vient de tomber, car ils ont hâte d'aller raconter aux apôtres à Jérusalem leur bouleversante expérience. Tandis qu'ils parlaient ensemble avec l'animation et l'émotion que l'on devine, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Cette apparition les plonge dans une grande frayeur. Elle confirme certes les dires des femmes qui affirmaient avoir vu le ressuscité, ceux de Pierre aussi, et des deux disciples qui venaient d'arriver d'Emmaüs. Mais elle est tellement imprévue. L'atmosphère était déjà si enfiévrée. Ils ont du mal à maîtriser l'émotion violente et contagieuse qui les agite tous. C'est là aussi un comportement normal, compréhensible. Alors Jésus leur parle et sa voix va quelque peu les calmer. Il fait appel à leur sens, voyez, touchez, ils l'entendent aussi. On sent bien qu'il veut les persuader. Il faut qu'ils soient convaincus et que tout leur sens soit comme imprégné d'une manière indélébile de ces moments qu'ils sont en train de vivre, car ils seront les témoins de la résurrection. Il faudra faire face aux moqueries, vaincre les raisonnements, mépriser les menaces, souffrir les outrages, le martyre et la mort. Pour le moment, ils le regardent. L'écoute, n'ose pas se laisser aller à la joie. Ils ne croient pas encore, non pas par dureté de cœur, mais parce que cela leur semble trop beau pour être vrai. Alors, pour qu'il ne subsiste pas le moindre doute, pour qu'ils voient bien qu'ils sont en présence du corps ressuscité de ce même Jésus qu'ils avaient connu et aimé, il leur demande à manger. Une main tremblante sans doute lui tend un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Consciencieusement, il en mange devant eux. C'est un détail qui me bouleverse. Ils le regardent. On les devine tendus au comble de l'émotion. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Vous êtes témoins, de ces choses. Dès lors, ces hommes que nous avons vus désemparés, épouvantés, dispersés, ne sont plus les mêmes. Les moments qu'ils viennent de vivre les ont transformés. Aucun autre événement que la résurrection de leur maître ne peut expliquer le revirement qui s'est produit dans l'attitude de ces hommes. Rien d'autre n'aurait pu les transformer à ce point. Et c'est encore là un comportement normal, compréhensible. Voici Pierre et Jean, traduits devant le redoutable Sanhédrin, le grand tribunal des Juifs. Les juges sont d'abord étonnés de l'assurance de ces deux hommes, sachant qu'ils étaient l'un et l'autre hommes du peuple sans instruction. Puis lorsqu'ils leur défendent absolument, avec menace, de parler et d'enseigner au nom de Jésus, ils les entendent dire « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » C'est le cri des témoins, spontané, irrésistible, véhément. Nous retrouvons cette même véhémence tout au long du livre des Actes des Apôtres et des Épîtres. Pour les apôtres, la résurrection du Christ était le fait central, essentiel, inamovible de toute leur vie, de toute l'histoire humaine. Mes chers amis, il faut relire ces textes du Nouveau Testament pour redécouvrir l'importance de cet événement, non seulement dans l'histoire du monde, mais dans la banale histoire de votre vie, de notre vie à tous, car cela nous concerne personnellement. En effet, je n'ai pas le droit de considérer cet événement de loin. C'est pour moi que le Christ est mort, pour expier mes fautes à ma place. Et c'est pour moi qu'il est ressuscité pour que la mort n'ait plus d'emprise sur moi. Chez les premiers chrétiens, la conversion rendait solennellement présent et la mort et la résurrection du Christ. Lorsqu'il entrait dans l'eau du baptême, le converti comprenait qu'il était enseveli avec le Christ et qu'il ressuscitait avec lui à une nouvelle vie en émergeant de l'eau. Il faut relire ces textes parce qu'ils sont rédigés pour la plupart par les témoins directs du Christ ressuscité. Ils nous font part de leur expérience extraordinaire et c'est la vivre un peu avec eux que de lire leurs rapports. On ne peut pas écarter leur témoignage d'un simple haussement d'épaule. Il est trop important, trop pétri d'authenticité. C'est une lecture qui ranime la foi. Elle nous rappelle à l'essentiel. Elle constitue une respiration saine et vivifiante en un temps où tout ce qui se lit et tout ce qui s'entend est loin de l'être et où la foi est comme une espèce en voie de disparition. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier », chantait David avec délice. Attachons-nous à cette lumière et tenons ferme cette lampe, car sans elle, toute vie est vouée à l'échec. Puissions-nous le comprendre une fois pour toutes et nous employer tous à le faire comprendre autour de nous.